12. Dans notre monde, c'est juste le contraire. S'il arrive que l'homme, étant célibataire, pense encore à l'abstinence, une fois marié, il considère que l'abstinence n'est plus nécessaire. Songez donc, ce départ après le mariage, cette solitude que les nouveaux mariés se ménagent avec le consentement des parents, ce n'est autre chose que l'autorisation de la débauche. Mais la loi morale se venge elle-même quand on la viole. La lune de miel ne me donna pas ce qu'elle promettait. Tout le temps c'était honteux et ennuyeux, et bientôt cela devint très pénible. Je crois que le troisième ou le quatrième jour, je trouvai ma femme triste. Je lui en demandai la raison, et me mis à l'embrasser, ce qui, à mon avis, était tout ce qu'elle pouvait désirer. Elle écarta ma main et se mit à pleurer. Pourquoi ? Elle ne put me le dire. Elle était triste, angoissée. Ses nerfs torturés lui avaient probablement suggéré la vérité sur l'ignominie de nos relations. Mais elle ne savait comment exprimer cela. Je me mis à la questionner. Elle répondit quelque chose de vague, qu'elle était triste sans sa mère. Il me sembla qu'elle ne disait pas la vérité. Je cherchais à la consoler en gardant le silence sur sa mère. Il ne me venait pas à l'esprit qu'elle se sentait tout simplement énervée et que la mère n'était qu'un prétexte. Mais aussitôt, elle s'offensa de ce que je ne parlais pas de sa mère, comme si je ne l'avais pas cru. Elle me dit qu'elle voyait bien que je ne l'aimais pas. Je l'accusai de caprice. Soudain, tout son visage se changea. La tristesse fit place à l'irritation. Elle me reprocha en termes durs et blessants mon égoïsme et ma cruauté. Je la regardai. Toute sa figure exprimait la froideur absolue, l'animosité, presque la haine pour moi. Je me rappelle l'effroi que j'éprouvais à cette vue. Comment ? Quoi ? Pensais-je. L'amour, l'union des âmes, et voilà ce qu'il y a. Mais c'est impossible, ce n'est plus elle. Je tâchais de la calmer, mais je me heurtais à un tel mur inébranlable de froide hostilité que, sans avoir le temps de réfléchir, je fus pris d'une vive irritation et nous échangeâmes une foule de propos désagréables. L'impression de cette première brouille fut terrible. J'appelle cela brouille, mais ce n'était pas une brouille. C'était la découverte soudaine de l'abîme qui, en réalité, existait entre nous. L'amour était épuisé avec la satisfaction de la sensualité, et nous restions en face l'un de l'autre, sous notre vrai jour, comme deux égoïstes complètement étrangers qui cherchent à se procurer le plus de plaisir possible l'un par l'autre. Ainsi, ce que j'appelais notre brouille était la mise au jour de notre véritable situation après l'apaisement de la volupté. Je ne me rendis pas compte que cette hostilité froide était notre état normal, et je ne comprenais pas que cette première brouille serait bientôt noyée sous un flot de sensualité. Je crus que nous nous étions querellés, puis réconciliés, et que cela ne nous arriverait plus. Mais en cette même lune de miel, arriva bientôt une période de satiété où nous cessâmes d'être nécessaires l'un à l'autre, et une nouvelle brouille éclata. Cette deuxième brouille me frappa encore plus que la première. Alors, la première n'était pas un hasard, c'était fatal, et cela sera ainsi, pensais-je. Cette seconde querelle me stupéfia d'autant plus qu'elle avait une cause misérable. Elle eut pour prétexte une question d'argent. Or, jamais je n'avais marchandé sur ce chapitre. Il m'était surtout impossible de le faire vis-à-vis de ma femme. Je me souviens seulement qu'à une remarque que je lui fis, elle insinua que mon intention était de la dominer au moyen de l'argent, et que je basais sur l'argent mon droit sur elle. Enfin, quelque chose de tout à fait impossible, de stupide et lâche, qui n'était ni dans mon caractère, ni dans le sien. J'étais hors de moi. Je l'accusais d'indélicatesse. Elle m'adressa le même reproche. La dispute éclata. Dans ses paroles, dans l'expression de son visage, dans ses yeux, je remarquais de nouveau la haine cruelle et froide qui m'avait tant stupéfié déjà. Il m'est arrivé de me quereller avec mon frère, avec des amis, avec mon père, mais jamais il n'y eut entre nous cette méchanceté farouche que je voyais ici. Après quelque temps, cette haine mutuelle fut encore couverte par un flux de volupté, et je me consolais de nouveau en me disant que ces deux querelles étaient des fautes réparables. Mais à la troisième, à la quatrième, je compris que ce n'était pas un simple hasard, que c'était une fatalité qui devait arriver encore, et j'en étais horrifié. Une autre pensée encore plus terrible me tourmentait. J'étais persuadé que moi seul vivais si mal avec ma femme que cela n'arrivait pas dans les autres ménages. J'ignorais alors que dans tous les ménages ont lieu les mêmes accrocs et que tous, comme moi, s'imaginant que c'est un malheur exclusivement réservé à eux seuls, cachent soigneusement ce malheur honteux, non pas seulement aux autres, mais à eux-mêmes. Commencé dès les premiers jours, cela se perpétua et augmenta, avec des caractères d'acharnement toujours plus marqués. Au fond de mon âme, dès les premières semaines, je sentis que j'étais perdu, que j'avais ce que je n'attendais pas, et que le mariage non seulement n'est pas le bonheur, mais une épreuve pénible. Cependant, comme tout le monde, je me refusais à l'avouer. Je ne l'aurais jamais avoué, n'eût été le dénouement, et je le cachais non seulement aux autres, mais à moi-même. Je m'étonne maintenant de n'avoir pas vu alors ma situation vraie. C'était cependant facile, avec ces querelles commencées pour des motifs si futiles, qu'on ne pouvait ensuite se les rappeler. La raison ne pouvait trouver de prétexte suffisant pour notre haine tenace l'un envers l'autre. De même, n'en trouvait-elle pas pour la réconciliation? Parfois des paroles, des explications, des larmes même, mais parfois, oh, j'ai honte à me le rappeler maintenant, après des mots injurieux, arrivaient les sourires, les baisers, les enlacements. Abomination! Comment ne percevais-je pas alors toute cette vilenie? 13. Deux voyageurs montèrent et se mirent à s'installer à l'autre extrémité du wagon. Il se tut tout le temps qu'ils s'installèrent, mais aussitôt le silence revenu, il continua. Évidemment, il n'avait pas perdu un seul instant le fil de sa pensée. « Voilà ce qui est ignoble principalement, » commença-t-il. « On suppose, en théorie, que l'amour est quelque chose d'idéal, d'élevé, et en réalité, l'amour est quelque chose de hideux, de sale, dont il est dégoûtant et honteux de parler et de se souvenir. Et il faut bien le comprendre, ce n'est pas en vain que la nature fait que c'est hideux et honteux. Mais au contraire, les gens feignent que le hideux et le honteux est beau et élevé. Quels étaient les premiers indices de mon amour? Je m'adonnais aux excès bestiaux, non seulement sans en être honteux, au contraire, j'en étais fier, non seulement sans penser à la vie intellectuelle de ma femme, mais même sans penser à sa vie physique. Je m'étonnais de notre hostilité, et pourtant, comme c'était clair, cette hostilité n'était autre chose qu'une protestation de la nature humaine contre la bête qui l'asservissait. Je m'étonnais de notre haine mutuelle, et il n'en pouvait être autrement. Cette haine n'était rien d'autre que la haine des complices pour l'excitation et la participation dans le crime, car c'était un crime que notre liaison de cochon continua toujours lorsque cette pauvre femme fut devenue enceinte le premier mois. Vous pensez que je m'écarte de mon récit? Du tout. Je vous raconte toujours comment j'ai tué ma femme. On m'a demandé au tribunal avec quoi, comment j'ai tué ma femme. Les imbéciles! Ils croient que j'ai tué ma femme avec un couteau le 5 octobre. Ce n'est pas alors que je l'ai tuée. C'est longtemps avant, comme eux tous tuent à présent. Mais comment cela? Demandai-je. Voici ce qui est étonnant, que personne ne veut savoir ce qui est si clair et si évident, que les médecins devraient connaître et répandre, mais qu'ils taisent. C'est quelque chose de terriblement simple. L'homme et la femme sont créés comme les animaux, de telle sorte qu'après l'amour charnel, la femme devient enceinte, puis allaite. Durant ces périodes, l'acte sexuel est nuisible, aussi bien pour la femme que pour son enfant. Il y a un nombre égal d'hommes et de femmes. Que résulte-t-il de cela? Il semble qu'il ne faut point un esprit transcendant pour tirer de cela la conclusion qu'en tirent les animaux, c'est-à-dire l'abstinence. Mais non, la science est arrivée à tel point qu'elle a trouvé des leucocytes quelconques qui circulent dans le sang et d'autres imbécilités, tandis qu'elle n'a pas pu comprendre encore cela. Du moins, je n'ai jamais entendu qu'elle en ait parlé. De sorte que pour une femme, il n'y a que deux issues. L'une, se transformer en monstre, détruire en soi la capacité d'être femme, c'est-à-dire mère, pour que l'homme puisse tranquillement continuer à jouir d'elle. L'autre issue, qui n'est pas même une issue, mais la simple, directe et grossière violation des lois de la nature, qui se commet dans toutes les familles dites honnêtes, c'est que la femme, contrairement à sa nature, doit être en même temps enceinte, nourrice et maîtresse, c'est-à-dire ce à quoi ne descend aucun animal. Ces forces n'y suffisent pas. Voilà pourquoi nous avons l'hystérie, les nerfs et, chez les paysans, la possession, l'ensorcellement. Notez que chez la jeune fille pure, la possession n'existe pas. Elle n'existe que chez la femme et chez la femme qui vit avec son mari. C'est ainsi chez nous et ainsi en Europe. Tous les hôpitaux sont remplis de femmes qui ont transgressé les lois de la nature. Mais les possédées et les clientes de Charcot sont des créatures complètement finies, tandis que de femmes à demi estropiées, le monde regorge. Si l'on songeait quelle grande œuvre est pour la femme la gestation ou l'allaitement, en elle se forme l'être qui nous continue. Et cette œuvre sainte est gênée, rendue pénible, par quoi ? Il est effroyable d'y penser. Et après cela, on parle de la liberté, des droits de la femme. C'est comme des anthropophages gavant leurs prisonniers pour les dévorer et leur assurant en même temps qu'on prend soin de leurs droits et de leur liberté. Tout cela était neuf et me surprenait. Mais alors, s'il en est ainsi, dis-je, il en résulte qu'on peut aimer sa femme seulement une fois tous les 2 ans. Et comme l'homme. Et l'homme en a besoin, répéta-t-il. Au moins les charmants prêtres de la science nous l'assurent. Je les forcerai, ces pontifes, à remplir l'emploi de ces femmes, qui, d'après eux, sont nécessaires aux hommes. Qu'est-ce qu'ils chanteraient alors? Affirmez à l'homme qu'il a besoin d'eau-de-vie, de tabac, d'opium, et il croira tout cela nécessaire. Il en résulte que Dieu n'a pas su arranger l'affaire comme il faut, puisque, sans demander l'avis des pontifes, il a combiné ainsi la chose. L'homme a besoin de satisfaire sa volupté, ainsi ont-ils décidé, et voilà que ce besoin est dérangé par la naissance et l'allaitement des enfants. Que faire alors? S'adresser aux pontifes, ils arrangeront cela. Et en effet, ils ont trouvé. Quand donc seront découronnés ces canailles avec leurs mensonges? Il est temps. Nous en avons assez. On devient fou. On se tire des coups de revolver, et toujours à cause de cela. Et comment pourrait-il en être autrement? On dirait que les animaux savent que la descendance continue leur espèce, et ils suivent à cet égard une certaine loi. Il n'y a que l'homme qui ne la connaît pas et ne veut pas la connaître. Il n'est soucieux que d'avoir le plus de plaisir possible. Et qui donc fait cela? Le roi de la nature, l'homme. Remarquez que les animaux s'accouplent seulement quand ils peuvent reproduire l'espèce. Et l'ignoble roi de la nature s'accouple en tout temps. Il fait plus. Il élève cet acte de singe à un idéal. Au nom de cet amour, c'est-à-dire de cette saleté, il tue. Quoi? La moitié du genre humain. De la femme qui doit être son aide dans les mouvements de l'humanité vers la vérité et le bien, au nom de ses plaisirs, il en fait non pas une aide, mais une ennemie. Qu'est-ce qui retarde partout le mouvement progressif de l'humanité? La femme. Pourquoi en est-il ainsi? À cause de ce que j'ai dit, et pour cela seul. Oui, oui, répéta-t-il plusieurs fois, et il commença à se remuer, prit une cigarette, se mit à fumer, afin, évidemment, de se calmer un peu. 14. Et voilà, je vécus en pareil cochon, continua-t-il, reprenant son ton ancien. Le pire, c'est que, vivant de cette façon ignoble, je croyais, parce que je ne me laissais pas séduire par les autres femmes, que je menais une vie de famille honnête, que j'étais un être moral et que si nous avions des querelles, la faute en était à ma femme, à son caractère. Mais il est évident que la faute ne venait pas d'elle. Elle était comme tout le monde, comme la majorité. Elle avait été élevée d'après les principes exigés par la société qui était la nôtre, c'est-à-dire comme sont élevées, sans exception, toutes les jeunes filles de notre classe riche, comme elles le sont nécessairement. On parle de je ne sais quelle nouvelle éducation des femmes. Mais ce ne sont là que de vaines paroles. L'éducation des femmes résulte de la véritable vocation de la femme dans le monde et non de celle qu'on a inventée pour elle. L'éducation de la femme correspondra toujours à la façon dont l'homme envisage la femme. Nous tous savons comment les hommes envisagent les femmes. « Wein, Weib und Gesang », comme disent les poètes en leurs vers. Prenez toute la poésie, la peinture, la sculpture, en commençant par les poèmes d'amour et les Vénus effrénées nues, vous verrez que la femme n'est qu'un instrument de plaisir. Elle est ainsi à Trouba, à Gryatchevka et à un bal de la cour. Et songez à cette ruse diabolique, le plaisir. Eh bien, c'est le plaisir. Et l'on sait que la femme est un morceau fin. D'abord, ce sont les chevaliers qui assurent qu'ils adorent la femme. Ils l'adorent et la regardent tout de même comme un instrument de plaisir. Et de nos jours, tous assurent estimer la femme. Les uns lui cèdent leur place, ramassent son mouchoir, les autres lui reconnaissent le droit d'occuper tous les emplois, de participer au gouvernement, etc. Malgré tout cela, le point essentiel demeure le même. Elle est un objet de volupté, son corps est un moyen de jouissance. Et elle le sait, c'est de l'esclavage, parce que l'esclavage n'est rien d'autre que l'utilisation du travail des uns à la jouissance des autres. Pour que l'esclavage n'existe pas, il faut que les uns se refusent à jouir du travail des autres et l'envisagent comme un péché, comme un acte honteux. Actuellement, qu'arrive-t-il ? On abolit la forme extérieure de l'esclavage, on supprime les actes de vente des esclaves et on s'imagine, on se persuade, que l'esclavage est aboli. On ne veut pas voir qu'il existe toujours, puisque les gens, comme auparavant, aiment à profiter du labeur des autres et croient cela bon et juste. Dans ces conditions, il se trouvera toujours des êtres plus forts ou plus rusés que les autres pour en profiter. La même chose se passe avec l'émancipation de la femme. Au fond, l'esclavage féminin consiste uniquement en ce que les hommes désirent jouir de la femme comme moyen de plaisir et trouvent cela bien. On émancipe la femme, on lui donne toute espèce de droits égaux à ceux de l'homme, mais on continue à l'envisager comme un objet de volupté. On l'élève ainsi depuis son enfance, et l'on dirige dans ce sens l'opinion publique. Elle est toujours la serve humiliée et corrompue, et l'homme reste toujours le maître débauché. On émancipe la femme dans les cours publiques, dans les parlements, mais on l'envisage toujours comme un objet de volupté. Apprenez-lui, comme on le fait chez nous, à se considérer comme telle, et elle restera toujours un être inférieur. Ou, avec l'aide de médecins canailles, elle cherchera à prévenir la conception de l'enfant et sera une vraie prostituée, descendue non au degré de la bête, mais à l'état d'objet. Ou elle sera ce qu'elle est dans la plupart des cas, malade, hystérique, malheureuse, inapte au progrès spirituel. Les lycées et les cours ne peuvent changer cela. La seule chose qui le pourrait, ce serait un changement de l'opinion de l'homme sur la femme et de la femme sur elle-même. Mais cela n'arrivera que quand la femme regardera l'état de virginité comme l'état supérieur, au lieu d'y voir, comme maintenant, une honte et un déshonneur. Tant qu'il n'en sera pas ainsi, l'idéal de toute jeune fille, quelle que soit son instruction, sera toujours d'attirer le plus grand nombre possible d'hommes, le plus grand nombre de mâles, afin d'avoir le plus grand choix. Le fait que l'une connaît plus de mathématiques et que l'autre joue de la harpe ne change rien. La femme est heureuse et atteint tout ce qu'elle peut désirer quand elle séduit un homme. C'est pourquoi le but principal de la femme est de savoir séduire. C'était et ce sera toujours ainsi. Ce qui était dans sa vie de vierge continuera dans sa vie de femme mariée. dans sa vie de jeune fille, c'était nécessaire pour le choix. Dans sa vie de femme, ce sera nécessaire pour dominer le mari. Une seule chose supprime ou interrompt quelque temps ces tendances, les enfants. Et encore, quand la femme n'est pas un monstre, c'est-à-dire nourrie d'elle-même. Ici encore paraît le médecin. Avec ma femme qui voulait nourrir elle-même et qui a nourri ses 5 enfants, il arriva que le premier enfant fut souffrant. Les médecins qui cyniquement la déshabillèrent et la tâtèrent partout, et que je dus remercier et payer pour cela, ces chers médecins trouvèrent qu'elle ne devait pas nourrir, et elle fut momentanément privée du seul remède qui pouvait la débarrasser de la coquetterie. C'est une nourrice qui acheva de nourrir ce premier-né. C'est-à-dire que nous profitâmes de la misère et de l'ignorance d'une femme pour la voler à son petit en faveur d'une autre. En revanche, nous la parâmes d'une coiffure à galons dorés. Mais il ne s'agit pas de cela. Ce qui importe, c'est que chez ma femme se réveilla cette coquetterie endormie pendant qu'elle allaitait. Cette coquetterie raviva en moi les souffrances de la jalousie qui ne cessa de me tourmenter durant ma vie conjugale. Comme elle ne peut pas ne pas tourmenter tous les maris qui vivent avec leur femme comme je vivais avec la mienne, c'est-à-dire immoralement. 15. Durant tout le temps de mon mariage, jamais je ne cessais d'éprouver la jalousie et d'en souffrir. Il y eut des périodes où j'en souffris plus violemment. La première fois, ce fut après la naissance de notre premier enfant, quand les médecins eurent défendu à ma femme de nourrir. Je fus particulièrement jaloux, d'abord parce que ma femme éprouvait cette inquiétude propre à la mère quand l'ordre régulier de la vie est interrompu sans sujet, et surtout je fus jaloux quand je vis avec quelle facilité elle renonçait à ce devoir moral de mère, d'où je conclus, avec raison, bien qu'inconsciemment, qu'elle rejetterait aussi facilement le devoir conjugal, d'autant qu'elle se portait parfaitement, puisque malgré la défense des chers docteurs, elle allaita les enfants suivants, et même très bien. « Je vois que vous n'aimez pas les médecins, » dis-je, ayant remarqué l'intonation particulièrement méchante de sa voix chaque fois qu'il parlait d'eux. Il ne s'agit pas de les aimer ou de ne pas les aimer. Ils ont perdu ma vie comme ils ont perdu celle de milliers et de centaines de milliers d'êtres avant moi. Et je ne puis point ne pas lier la conséquence à la cause. Je comprends qu'ils veuillent, comme les avocats et les autres, gagner de l'argent. Je leur aurais donné volontiers la moitié de mes revenus, et chacun agirait de même si l'on comprenait ce qu'ils font. Chacun le ferait pour qu'ils ne s'immiscent pas à la vie conjugale et se tiennent à distance. Je n'ai pas fait de statistiques, mais je connais des dizaines de cas, et en réalité ils sont innombrables, où ils ont tué tantôt un enfant dans le sein de sa mère, affirmant que la mère ne pourrait accoucher, plus tard elle accouchait très bien, tantôt des mères, sous prétexte de quelque opération. Personne n'a compté ces assassinats, comme on n'a pas compté les assassinats de l'Inquisition, parce qu'on supposait qu'ils avaient pour but le bonheur de l'humanité. Les crimes des médecins sont innombrables, mais tous ces crimes ne sont rien comparés à cette démoralisation qu'ils introduisent dans le monde par les femmes. Encore, je ne parle pas de ceci, que si l'on voulait suivre leurs indications, grâce aux microbes qu'ils voient partout, l'humanité, au lieu de tendre à l'union, irait à la désunion complète, tout le monde, d'après leur théorie, devant s'isoler et tenir toujours dans sa bouche une seringue à acide phénique. D'ailleurs, ils ont trouvé à présent que ce n'est plus bon. Mais ce n'est rien. Le poison suprême, c'est le pervertissement des gens, des femmes surtout. On ne peut plus dire maintenant « tu vis mal, vis mieux ». On ne peut plus le dire ni à soi-même, ni aux autres. En effet, si tu vis mal, la cause est dans le système nerveux ou dans quelque chose de semblable, etc. Et il faut aller les consulter et ils te prescriront pour 35 copecs de remèdes pris à la pharmacie. Et il te faut les avaler. Ton état empire, encore des médecins, encore des remèdes. La bonne affaire. Mais revenons à notre sujet. Je disais que ma femme nourrissait bien ses enfants, que la gestation et l'allaitement des enfants apaisaient mes tortures de jalousie. Si ce n'eût été cela, tout serait arrivé auparavant. les enfants me sauvaient et la sauvaient. En 8 ans, elle eut 5 enfants, et, sauf le premier, elle les nourrit tous. « Où sont maintenant vos enfants ? » demandai-je. « Les enfants ? » fit-il d'un ton effrayé. « Excusez-moi, peut-être vous est-il pénible d'en parler. » « Non, rien. C'est ma belle-sœur et mon frère qui les ont pris. Ils ne me les ont pas donnés. Moi, je leur ai abandonné ma fortune, mais eux ne m'ont pas donné les enfants. On me considère comme fou. Maintenant, je reviens de chez eux. Je les ai vus, mais ils ne me les donneront pas. Autrement, je les élèverai pour qu'ils ne soient pas comme leurs parents. Et il faut qu'ils soient pareils. Mais que faire? C'est compréhensible qu'on ne me les donnera pas et ne me croira pas. Et je ne sais pas si j'aurai la force de les élever. Je pense que non. Je suis une ruine, un malheureux. Je n'ai qu'une seule chose, je sais. Oui, c'est sûr, je sais quelque chose que tous ne sauront peut-être pas de sitôt. Oui, les enfants vivent et grandiront aussi sauvages que tous ceux qui les entourent. Je les ai vus 3 fois. Je ne puis rien faire pour eux. Je retourne maintenant chez moi, dans le midi. Là-bas, j'ai une maisonnette et un jardin. Oui, beaucoup de temps s'écoulera encore avant que les hommes sachent ce que je sais. La quantité du fer et le nombre des métaux qui existent dans le soleil et les étoiles, cela, on peut l'apprendre vite. Mais ce qui dénonce notre abomination, voilà ce qu'il est très difficile de savoir. Vous écoutez au moins, je vous en suis reconnaissant. 16. Vous avez parlé des enfants. De nouveau, quel terrible mensonge au sujet des enfants. Les enfants, bénédiction de Dieu. Les enfants, joie de la vie. Tout cela était autrefois. Maintenant, il n'y a rien de pareil. Les enfants, c'est de la souffrance et rien de plus. La plupart des mères le sentent ainsi et parfois, par hasard, le disent. Demandez à la majorité des mères de notre monde, de la classe aisée, elles vous diront que la crainte de voir leurs enfants malades ou mourir fait qu'elles n'en désirent point avoir, ou, si elles en ont, qu'elles ne veulent pas les nourrir afin de ne s'y pas trop attacher et d'en souffrir. Le plaisir que leur donne l'enfant par son charme, ses petites menottes, ses petits pieds, par tout son corps, le plaisir donné par l'enfant est moindre que la souffrance qu'elles en éprouvent, sans même parler de la maladie ou de la mort de l'enfant, par la crainte seule de la possibilité de cette maladie et de cette mort. Ayant pesé les avantages et les désavantages, elles trouvent que ceux-ci l'emportent et, par conséquent, qu'il est peu enviable d'avoir des enfants. Elles le disent tout franchement, s'imaginant que ces sentiments proviennent de leur amour maternel, qu'ils sont bons, louables, et qu'elles en peuvent être fières. Elles ne remarquent pas qu'en raisonnant ainsi, elles nient tout simplement l'amour et n'affirment que leur égoïsme. Elles trouvent que l'enfant donne moins de plaisir que de souffrance à cause des craintes qu'on a pour lui. C'est pourquoi il ne faut pas avoir d'enfants qu'elles aimeraient. Elles sacrifient non leur propre personne pour un être aimé, mais elles sacrifient pour elles-mêmes un être qu'elles auraient à aimer. Il est clair que ce n'est pas de l'amour, mais de l'égoïsme. Cependant, aucune voix ne s'élève pour condamner ces mères de famille aisées à cause de leur égoïsme, à la pensée de tout ce qu'elles souffrent lors de la maladie des enfants, grâce encore aux mêmes médecins. Quand je me rappelle, même maintenant, la vie et l'état d'esprit de ma femme les premiers temps, avec 3 ou 4 enfants qui l'absorbaient toutes, l'horreur me saisit. Ce n'était pas une vie, c'était un danger perpétuel. Le salut de ce danger, un nouveau danger, et de nouveau, des efforts désespérés, et de nouveau le salut. La situation était toujours analogue à celle d'un navire qui sombre. Parfois, il me semblait qu'elle le faisait exprès, qu'elle feignait de s'inquiéter des enfants pour me subjuguer, pour obtenir en sa faveur la solution de toutes les questions. Parfois, il me semblait que tout ce qu'elle disait et faisait en pareil cas, elle le faisait et disait exprès. Mais non, elle souffrait terriblement à cause des enfants, à cause de leur santé, de leur maladie. C'était une torture pour elle et pour moi aussi, et elle ne pouvait ne pas souffrir. L'attraction qu'exercent les enfants, le besoin animal de les nourrir, de les soigner, de les défendre, était ce qu'ils sont chez la majorité des femmes, sans avoir ce qu'il y a chez les animaux, l'absence d'imagination et de raison. Une poule ne craint pas ce qui peut arriver à son poussin, elle ne connaît pas toutes les maladies qui peuvent l'atteindre, elle ne sait pas tous les moyens qu'imaginent les hommes qui veulent triompher de la maladie et de la mort. Les enfants, pour la poule, ne sont pas une souffrance. Elle fait pour ses poussins ce qu'il lui est naturel de faire et lui procure de la joie. Les enfants, pour elle, c'est du plaisir. Quand un poussin tombe malade, les soins de la poule sont très définis. Elle le réchauffe, le nourrit, et faisant cela, elle sait qu'elle fait tout ce qui est nécessaire. Si le poussin crève, elle ne se demande pas pourquoi il est mort, où il est parti. Elle glousse un moment, puis continue à vivre comme auparavant. Mais pour nos malheureuses femmes, ce n'est pas la même chose. Sans parler des maladies, elles ont entendu de tous côtés et lu des recettes infiniment variées et constamment modifiées sur la façon de soigner, d'élever les enfants. Il faut les nourrir avec ceci. Non, pas avec ceci, avec cela. Il faut les vêtir, les baigner, les faire dormir, les promener. Pour cela, nous apprenons, ou plutôt elles apprennent chaque semaine, de nouvelles méthodes. C'est à croire qu'on a commencé hier seulement à faire des enfants. Et si l'on n'a pas donné à manger ceci, si on n'a pas baigné à un certain moment, alors c'est nous qui sommes coupables. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait faire. Voilà quand l'enfant est bien portant. C'est déjà une souffrance. Mais si l'enfant tombe malade, alors c'est fini. C'est un enfer. On suppose qu'on peut guérir la maladie et qu'il existe une science pareille et des gens, les médecins, capables de le faire. Encore parmi ceux-ci, pas tous, mais les meilleurs. Voilà donc l'enfant malade. Il faut le trouver, ce meilleur, celui qui guérit, et alors l'enfant sera sauvé. Si l'on ne trouve pas ce médecin, ou si l'on ne vit pas dans la grande ville où il habite, alors l'enfant est perdu. Et ce n'est pas une croyance particulière à une femme, c'est celle de toutes les femmes de sa classe. De tous côtés, elle n'entend que ceci. Catherine Semyonovna a perdu 2 enfants parce qu'elle n'a pas appelé à temps Ivan Zakharitch, tandis qu'Ivan Zakharitch a sauvé la fille aînée de Marie Ivanovna. Chez les Petrov, on a suivi à temps les conseils du docteur, on s'est installé dans différents hôtels et tous sont restés vivants. S'ils ne s'étaient pas séparés, les enfants seraient morts. Cette dame avait un enfant faible. Sur les conseils du docteur, on est allé dans le midi et on a sauvé l'enfant. Comment donc ne pas se tourmenter, ne pas être inquiet tout le temps, quand la vie des enfants, auxquels la mère est bestialement attachée, dépend de ce qu'elle entendra dire à Ivan Zakharitch. Et personne, lui-même moins que tous, ne sait ce que dira Ivan Zakharitch, car il n'ignore pas, lui, qu'il ne sait rien et ne peut aider en rien, mais il ordonne n'importe quoi pour qu'on ne cesse pas de croire qu'il sait quelque chose. Si la femme était tout à fait animale, elle ne souffrirait pas ainsi. Si elle était tout à fait un être humain, elle aurait foi en Dieu et dirait et penserait comme pensent et disent les croyants et les femmes du peuple. Dieu a donné, Dieu a repris. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. Elle penserait que la vie et la mort de tous les hommes, aussi bien que la vie et la mort de ses enfants, sont en dehors du pouvoir humain et n'appartiennent qu'à Dieu seul. Et alors, elle ne serait pas tourmentée par l'idée qu'il était en son pouvoir de prévenir la maladie et la mort de l'enfant et qu'elle ne l'a pas fait. Autrement, voici quelle est sa situation. Elle met au monde les créatures les plus fragiles, soumises à d'innombrables maux, des créatures très faibles. Elle ressent pour ces créatures un attachement passionné, bestial. Ces créatures lui sont confiées, et avec cela, elle ignore les moyens de les conserver, tandis que ces moyens sont révélés à des gens complètement étrangers, dont on ne peut obtenir les services et les conseils que contre beaucoup d'argent, et encore pas toujours. Comment donc ne pas souffrir? Ma femme se tourmentait toujours. Il arrivait que nous nous reposions après une scène de jalousie, ou tout simplement une querelle, et nous pensions vivre, lire, réfléchir. À peine s'est-on mis à quelque chose que tout à coup arrive une nouvelle. Vasya a vomi. Marie a eu une selle sanguinolente. Andrusha a l'urticaire. Et c'est fini, il n'y a plus de vie. Où courir? Quel médecin appeler? Comment séparer les enfants? Et commencent les clistères, les températures, les mixtures, les médecins. À peine cela est-il terminé, qu'arrive autre chose. Nous n'avons jamais eu une vie de famille calme, régulière. C'était, comme je vous l'ai dit, la lutte perpétuelle contre des dangers imaginaires et réels. Les choses se passent ainsi dans la plupart des familles. Dans la mienne, c'était avec une intensité particulière. Ma femme aimait ses enfants et croyait facilement tout ce qu'on lui disait. De sorte que la présence des enfants non seulement n'améliorait pas notre vie, mais l'empoisonnait. En outre, les enfants étaient pour nous un nouveau sujet de querelle. Dès leur naissance, et plus ils grandissaient, les enfants étaient précisément un sujet de discorde. Non seulement les enfants étaient un sujet de discorde, mais ils étaient des armes de lutte. Nous avions l'air de nous combattre mutuellement avec les enfants. Chacun de nous avait son préféré, son arme de lutte. Moi, je combattais surtout par Vasya l'aîné, elle par Lise. De plus, quand les enfants commencèrent à grandir et que leur caractère se dessina, il arriva qu'ils devinrent des alliés que chacun de nous attirait de son côté. Eux, les pauvres, souffraient beaucoup de cela, mais dans notre lutte continuelle, nous n'avions pas le temps de penser à eux. La fillette était mon alliée. L'aîné, le garçon, qui lui ressemblait beaucoup et qui était son préféré, souvent m'était haïssable. 17. Ainsi avons-nous vécu. Nos relations étaient de plus en plus hostiles, et nous en vîmes enfin à un tel point que ce n'était déjà plus le désaccord qui produisait l'hostilité, mais l'hostilité qui provoquait le désaccord. Quoi qu'elle dît, d'avance j'étais en désaccord avec elle. De son côté, il en était de même. Vers la quatrième année de notre mariage, il fut tacitement décidé entre nous que nous ne pouvions pas nous comprendre. Sur les questions les plus simples, nous demeurions chacun avec notre opinion, obstinément, surtout sur la question des enfants. Je me rappelle maintenant que les opinions que je défendais alors ne m'étaient pas du tout si chères que je n'en pusse faire le sacrifice. Mais comme ces opinions étaient contraires, céder signifiait céder à elle, et cela je ne le pouvais pas. Elle aussi. Elle trouvait sans doute qu'elle avait toujours raison contre moi, et moi, quand je discutais avec elle, j'étais à mes yeux un vrai saint. En tête à tête, nous étions presque condamnés au silence ou à des conversations que, j'en suis sûr, des animaux pourraient avoir entre eux. Quelle heure est-il? Il est temps de se coucher. Qui a-t-il à dîner pour aujourd'hui? Où irons-nous? Qu'y a-t-il dans le journal? Il faut envoyer chercher le médecin. Marie a mal à la gorge. Il suffisait de sortir de ce cercle, étroit à l'extrême, de la conversation, pour que l'irritation éclatât. Nous nous chicanions à propos du café, de la nappe, de la voiture, des cartes, pour des futilités, enfin, qui n'avaient d'importance ni pour l'un ni pour l'autre. Quant à moi, du moins, j'étais toujours violemment excité contre elle. Je regardais parfois comment elle versait le thé, comment elle balançait son pied, comment elle portait sa cuillère à sa bouche, comment elle soufflait sur les liquides chauds ou les aspirait, et je la détestais pour tout cela, comme pour de mauvaises actions. Je ne remarquais pas alors que ces périodes d'irritation alternaient très régulièrement avec les périodes de ce que nous appelions l'amour. Chacune de celles-ci était suivie de celle-là. Une période d'amour ardente était suivie d'une longue période de colère. Une manifestation plus faible de l'amour était suivie d'une période d'irritation plus faible, et nous ne comprenions pas alors que cet amour et cette haine étaient le même sentiment animal sous deux faces opposées. C'eût été terrible de vivre ainsi si nous avions compris notre situation. Mais nous ne la comprenions pas et ne la voyons pas. C'est le salut et le supplice de l'homme que, lorsqu'il vit irrégulièrement, il peut s'illusionner pour ne pas voir les misères de sa situation. Ainsi fîmes-nous. Elle cherchait à s'oublier en des occupations absorbantes, hâtives, dans les soins du ménage, de l'ameublement, de ses costumes et de ceux des enfants, de l'instruction de ceux-ci et de leur santé. Chez moi, c'était l'ivresse, l'ivresse du service, de la chasse, des cartes. Nous étions toujours occupés. Nous sentions tous deux que plus nous étions occupés, plus nous pouvions être méchants l'un pour l'autre. « C'est bien à toi de faire des grimaces, » pensais-je. « Tu m'as fait des scènes toute la nuit, et moi j'ai une séance demain. »« Cela t'est bien égal, non seulement, » pensait-elle, « mais disait-elle, « mais moi je n'ai pas dormi de la nuit à cause de l'enfant. » Ces nouvelles théories de l'hypnotisme, des maladies mentales, de l'hystérie, tout cela n'est pas une simple bêtise. C'est une bêtise dangereuse et mauvaise. Charcot, j'en suis sûr, aurait dit que ma femme était hystérique, et moi un être anormal, et il eût voulu nous soigner. Mais il n'y avait en nous rien à soigner. Nous vivions ainsi dans un perpétuel brouillard, sans voir notre état. Et s'il n'était arrivé ce qui s'est passé, j'aurais vécu ainsi jusqu'à la vieillesse, et serais mort convaincu que ma vie avait été bonne, sinon très bonne, du moins pas mauvaise, ordinaire. Je n'aurais pas vu cet abîme de malheur et ce mensonge ignoble dans lequel je me débattais. Nous étions comme deux galériens attachés au même boulet qui s'exècrent, s'empoisonnent l'existence et cherchent à ne pas le voir. J'ignorais encore que 99 ménages sur 100 vivent dans cet enfer et qu'il n'en saurait être autrement. Je ne savais cela ni par les autres, ni par moi-même. Étranges sont les coïncidences qui se trouvent dans la vie régulière et même irrégulière. Juste à l'époque où la vie des parents devient impossible, la nécessité d'aller habiter la ville pour l'éducation des enfants se fait sentir. Ainsi parut pour nous le besoin d'aller nous installer en ville. Il se tut, par deux fois, laissa entendre, dans les demi-ténèbres, ce son qui, en ce moment, me parut des sanglots comprimés. Nous approchions d'une station. « Quelle heure ? » demanda-t-il. Je regardais, il était 2 heures. « Vous n'êtes pas trop fatigué ? » dit-il. « Non, c'est vous qui êtes fatigué. »« Oui, j'étouffe. Permettez, je ferai un tour, j'irai boire de l'eau. » En chancelant, il traversa le wagon. Je demeurai assis, seul, me remémorant tout ce qu'il m'avait dit, et je devins si pensif que je ne remarquais pas qu'il était rentré par l'autre porte. 18. Oui, je m'écarte toujours de mon sujet, commença-t-il. J'ai beaucoup réfléchi. J'envisage beaucoup de choses d'un autre point de vue, et je voudrais vous en entretenir. Donc, nous vîmes en ville. En ville, les malheureux se sentent moins tristes. En ville, un homme peut vivre 100 ans et ne pas remarquer qu'il est mort et pourri depuis longtemps. On n'a pas le temps de s'appesantir sur son sort. Tous sont absorbés. Les affaires, les relations, la santé, l'art, la santé des enfants, leur éducation. Tantôt il faut recevoir, faire des visites. Il faut voir ceci, entendre celui-ci ou celle-là. En ville, il y a toujours 2 ou 3 célébrités qu'on ne peut se dispenser d'aller entendre. Tantôt il faut se soigner ou soigner un des enfants. Tantôt c'est le professeur, le répétiteur, les gouvernantes, et la vie est absolument vide. Au milieu de toutes ces occupations, nous sentions moins ce que la vie commune avait de pénible. D'abord, le premier temps, nous avions une très bonne occupation, l'installation de la nouvelle demeure, et aussi le déménagement de la ville à la campagne et de la campagne à la ville. Nous passâmes ainsi un hiver. L'hiver suivant survint un incident qui resta inaperçu, qui semblait une circonstance sans aucune gravité, mais qui fut la cause de tout ce qui arriva. Ma femme se trouva souffrante. Les médecins ne lui permirent pas de concevoir un nouvel enfant et lui en enseignèrent le moyen. J'en ressentis un dégoût profond. Je fis tout ce que je pus pour la détourner de cette décision, mais avec légèreté et opiniâtreté, elle insista et je cédai. La dernière justification de notre vie de cochon, les enfants, fut par là supprimée et la vie devint encore plus ignoble. Le paysan, l'ouvrier, ont besoin d'enfants bien qu'il leur soit difficile de les nourrir, et ainsi leurs relations sexuelles ont une justification. Mais à nous, qui avons des enfants, les enfants ne sont pas nécessaires. C'est un tracas superflu, des dépenses, des cohéritiers. C'est un embarras. Aussi n'avons-nous pas d'excuses pour notre vie de cochon. Ou nous nous débarrassons des enfants artificiellement, ou nous les regardons comme un malheur, comme la conséquence d'une imprudence, ce qui est encore pire. Nous n'avons pas d'excuses, mais nous sommes tellement dépravés qu'une justification ne nous paraît pas nécessaire. La majorité des gens de la société contemporaine s'adonnent à cette débauche sans le moindre remords. Nous n'avons plus de conscience, elle est remplacée par la crainte de l'opinion publique et du code criminel, devenue pour ainsi dire la conscience. Mais dans le cas de débauche dont il s'agit, ni l'une ni l'autre ne sont atteints. Personne dans la société n'en rougit. Chacun la pratique. Marie Pavlovna, Ivan Zakharitch. À quoi bon multiplier les mendiants et se priver des joies de la vie mondaine? Avoir de la conscience devant le code criminel ou le craindre, il n'y a pas nécessité. Ce sont les filles ignobles, les femmes de soldats, qui jettent leurs enfants dans des mares ou dans des puits. Celles-là, il faut les mettre en prison. Mais chez nous, la suppression se fait en temps opportun et proprement. Nous vécûmes ainsi encore 2 ans. Le moyen indiqué par les canailles de médecins avait réussi. Ma femme avait engraissé et embelli. C'était la beauté de la maturité. Elle le sentait et s'occupait beaucoup de sa personne. Elle avait acquis cette beauté provocante qui trouble les hommes. Elle était dans tout l'éclat de la femme de 30 ans, qui ne fait plus d'enfants, se nourrit bien, est excitée. Sa personne éveillait le désir. Quand elle passait parmi les hommes, elle attirait leurs regards. C'était comme le cheval d'attelage, longtemps oisif, de complexion ardente, dont on enlève subitement la bride. Quant à ma femme, elle n'avait pas de bride, comme d'ailleurs les 99% de nos femmes. Je le sentais et j'avais peur. 19. Tout d'un coup, il se leva et s'assit près de la portière. « Excusez-moi, » prononça-t-il, et les yeux fixés sur la vitre, pendant 3 minutes, il resta assis silencieux. Ensuite, il poussa un soupir profond et de nouveau prit place en face de moi. Son visage s'était transformé, son regard s'était fait suppliant, et une sorte de sourire étrange crispait ses lèvres. « Je suis un peu fatigué. Quand même, je continuerai. Nous avons encore beaucoup de temps. Le soleil n'est pas levé. » « Oui, » reprit-il en allumant une cigarette, « elle avait engraissé depuis qu'elle cessait de concevoir, et sa maladie, ses inquiétudes pour ses enfants, commençaient à disparaître. Non, pas disparaître. On eût dit qu'elle se réveillait d'une longue ivresse, et qu'en revenant à elle, elle avait aperçu tout l'univers avec ses joies qu'elle avait oubliées, tout un monde où elle n'avait pas appris à vivre et qu'elle ne comprenait pas. Pourvu que ce monde ne s'évanouisse pas, quand le temps est passé, on ne peut plus le faire revenir. C'est ainsi, je crois, qu'elle pensait, ou plutôt qu'elle sentait, et elle ne pouvait ni penser ni sentir autrement, ayant été élevée dans cette idée qu'il n'y a dans le monde qu'une chose qui compte, l'amour. En se mariant, elle avait connu quelque chose de cet amour, mais c'était encore loin de tout ce qu'elle avait cru lui être réservé, de tout ce qu'elle attendait, que de désillusions, de souffrances et une torture inattendue, les enfants. Cette torture l'avait exténuée. Or, voilà que grâce au serviable docteur, elle avait appris qu'on peut éviter d'avoir des enfants. Cela l'avait rendue joyeuse. Elle avait essayé et elle était ressuscitée pour la seule chose qu'elle admettait, pour l'amour. Mais l'amour avec un mari plein de jalousie et de méchanceté n'était plus ça. Elle se mit à rêver de quelque autre amour pur, nouveau, du moins le pensais-je ainsi. Elle se mit à épier autour d'elle comme si elle attendait quelque chose. Je le remarquai et forcément en fus inquiet. Maintenant, parlant avec moi par l'intermédiaire de tiers, c'est-à-dire qu'elle causait avec d'autres, mais avec l'intention que je l'entende, toujours elle exprimait hardiment et mi-sérieusement, sans penser qu'une heure avant elle disait le contraire, cette idée que les soucis maternels sont une duperie, qu'il ne vaut pas la peine de sacrifier sa vie aux enfants et qu'il faut jouir de la vie quand on est jeune. Elle s'occupait donc moins des enfants, n'y apportait pas le même acharnement qu'auparavant, et se préoccupait de plus en plus d'elle-même, de sa figure, quoiqu'elle s'en cachât, de ses plaisirs et même de son perfectionnement. Elle se remit avec passion au piano, naguère oublié dans un coin. Cela fut le commencement de tout. Il retourna de nouveau à la portière, mais aussitôt, faisant un effort sur soi, il continua. Oui, cet homme parut. Il sembla embarrassé, et par deux fois émit ce son dont j'ai parlé déjà. Je pensais qu'il lui était pénible de nommer cet homme et de s'en souvenir. Mais il fit un effort, et comme s'il avait rompu l'obstacle qui l'embarrassait, il continua résolument. C'était un vilain monsieur, à mon avis, à mon point de vue. Et cela non parce qu'il a joué un si grand rôle dans ma vie, mais parce qu'il était réellement tel. Au reste, le fait qu'il était un vilain monsieur n'est qu'une preuve qu'elle était irresponsable. Si ce n'eût été lui, c'eût été un autre. Cela devait être. Il se tut de nouveau. Oui, c'était un musicien, un violoniste. Pas un musicien de profession. Il était mi-homme du monde, mi-artiste. Son père, propriétaire terrien, était voisin du mien. Lui, le père, s'était ruiné, et les enfants, trois garçons, s'étaient tous débrouillés. Un seul, celui-ci, le cadet, fut envoyé chez sa marraine à Paris. Là, il entra au conservatoire, car il montrait des dispositions pour la musique. Il en sortit violoniste et joua dans des concerts. C'était un homme... Sur le point de dire du mal de lui, il se retint, s'arrêta et reprit brusquement « À vrai dire, je ne sais pas de quoi il vivait. Je sais seulement que cette année-là, il vint en Russie et me rendit visite. » Des yeux humides, fendus en amande, des lèvres rouges, souriantes, une petite moustache cosmétiquée, la coiffure à la dernière mode, un visage vulgairement joli, ce que les femmes appellent « pas mal ». Une constitution faible mais sans difformité, et un derrière très développé, comme chez une hottentote, à ce qu'on dit. On dit aussi qu'elles sont très musiciennes. Il savait s'insinuer aussi avant que possible dans l'intimité des gens, mais possédait ce flair qui prévient les fausses démarches et fait se retirer à temps. C'était un de ces hommes qui ont de la tenue, avec ce parisianisme particulier qui se révèle dans les bottines à boutons, une cravate aux couleurs voyantes, et ce quelque chose que les étrangers acquièrent à Paris, et qui, dans sa particularité, dans sa nouveauté, agit toujours sur les femmes. Dans les manières, une gaieté extérieure, factice. Vous savez, cette manière de parler de tout par allusion, par sous-entendu, comme si tout ce qu'on raconte, vous le saviez déjà. Vous vous le rappeliez et pouviez suppléer au sous-entendu. Eh bien, c'est celui-là, avec sa musique, qui fut cause de tout. Au procès, l'affaire fut présentée comme si tout était arrivé par jalousie. C'est faux. C'est-à-dire, non, pas tout à fait faux, mais il y avait encore autre chose. Finalement, on décida que j'étais son mari trompé, que j'avais tué pour défendre mon honneur souillé, comme ils disent dans leur jargon. C'est ainsi que je fus acquitté. Je tâchais d'expliquer l'affaire à mon point de vue, mais on en conclut que je voulais réhabiliter la mémoire de ma femme. Quelles qu'aient été ses relations avec le musicien, elles n'ont eu de sens ni pour moi ni pour elle. L'important est ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire ma turpitude. Tout est arrivé parce qu'entre nous, il y avait cet abîme immense dont je vous ai parlé, cette effroyable tension d'une haine réciproque où le moindre motif suffisait pour faire éclater la crise. Nos discussions dans les derniers temps, c'était quelque chose de terrible, et d'autant plus étonnante qu'elles étaient suivies d'une passion bestiale des plus exacerbées. Si ce n'eût été lui, c'eût été un autre. Si le prétexte n'avait pas été la jalousie, j'en aurais trouvé un autre. J'insiste sur ce point que tous les maris qui vivent comme je vivais doivent ou faire la noce, ou tuer leur femme comme je l'ai fait. Celui à qui cela n'arrive pas est une exception très rare. Moi, avant de finir comme j'ai fini, J'ai été plusieurs fois sur le point de me suicider, et elle aussi tenta de s'empoisonner. 20. Oui, la chose s'était produite peu de temps avant qu'il parût. Nous vivions presque bien. Brusquement, nous nous mettons à causer de quelque chose, d'un chien quelconque qui a reçu une médaille à l'exposition. Elle corrigea, pas une médaille, un diplôme d'honneur. La discussion commence, d'un sujet on passe à un autre, et puis les reproches. Oui, je le sais depuis longtemps, c'est toujours ainsi. Tu as dit que... Non, je ne l'ai pas dit. Alors, je mens? On sent qu'une crise épouvantable approche. Je voudrais la tuer ou me tuer moi-même. Je sais qu'elle approche. J'en ai peur comme du feu. Je voudrais me contenir, mais la rage envahit tout mon être. Elle est dans le même état, pire peut-être. Elle se rend compte qu'elle déforme à dessein toutes mes paroles, et chacun de ses mots à elle est imprégné de venin. Au point qu'elle sait le plus sensible, elle pique. Plus la querelle va, plus la fureur monte. Je crie « Tais-toi !» ou quelque chose de semblable. Elle bondit hors de la chambre, court auprès des enfants. Je cherche à la retenir pour en finir. Je la saisis par le bras. Elle feint que je lui fais mal. Elle crie « Enfant, votre père me bat !» Je crie « Ne mens pas !» Elle crie « Ah, ce n'est pas la première fois !» ou quelque chose dans ce genre. Les enfants s'élancent vers elle. Elle les apaise. Je dis « Hypocrisie !» Elle reprend « Tout est hypocrisie pour toi. Tu tuerais quelqu'un que tu dirais qu'il feint. Maintenant, je l'ai compris. C'est là ce que tu veux. » « Oh, si tu crevais » criai-je. Je me souviens combien cette terrible parole m'épouvanta. Jamais je n'avais pensé que je pouvais prononcer des paroles aussi brutales, aussi effroyables, et je fus stupéfait de celles qui venaient de m'échapper. Je crie ces paroles terribles et m'enfuis dans mon cabinet. Je m'assieds et fume. Je l'entends qui passe dans l'antichambre et s'apprête à partir. Je lui demande « Où vas-tu ? » Elle ne répond pas. « Bon, que le diable l'emporte !» me dis-je à moi-même, en revenant dans mon cabinet où je me couche et me remets à fumer. Des milliers de plans de vengeance, de moyens de me débarrasser d'elle ou d'arranger cela et de faire comme si rien n'était arrivé, me passent par la tête. Je pense à ces choses et je fume, je fume, je fume. Je songe à fuir, à m'échapper, à partir en Amérique. J'aime à rêver combien ce sera beau quand je me serai débarrassé d'elle, combien j'aimerais une autre femme, belle, toute différente d'elle. J'en serai débarrassé si elle meurt ou si je divorce, et j'invente les moyens d'arriver à cela. Je vois que je m'embrouille, mais pour ne plus voir que je m'égare, je fume de plus belle. Et à la maison, la vie suit son train. L'institutrice des enfants vient et demande « Où est madame ?» Quand rentrera-t-elle? Les domestiques demandent s'il faut servir le thé. J'entre dans la salle à manger. Les enfants, surtout les aînés, Lise, qui comprend déjà, me regardent interrogativement et la mine renfrognée. Nous prenons le thé en silence. Elle ne vient pas. La soirée se passe. Elle ne vient toujours pas. Deux sentiments alternent dans mon âme. La colère contre elle, qui nous torture, moi et les enfants, par son absence, et qui finira quand même par rentrer, et la crainte qu'elle ne rentre pas et ne tente quelque chose contre elle-même. Mais où la chercher? Chez sa sœur? On a l'air bête d'aller demander où est sa femme. D'ailleurs, que Dieu la garde. Si elle veut tourmenter, qu'elle se tourmente d'abord elle-même. Elle n'attend du reste que cela. Et la prochaine fois, ce sera pis encore. Et si elle n'est pas chez sa sœur? Si elle va faire ou a déjà fait quelque chose. 11 heures, minuit. Je ne dors pas. Je ne vais pas dans la chambre à coucher. C'est bête d'être étendu tout seul et d'attendre. Je cherche à m'occuper, écrire des lettres, lire. Impossible. Je suis seul, torturé, méchant, et j'écoute. 3, 4 heures. Elle n'est toujours pas là. Vers l'aube, je m'endors. Je me réveille, elle n'est pas encore rentrée. Tout dans la maison va comme auparavant, mais tous sont étonnés et me regardent interrogativement. Les enfants m'observent avec reproche, et toujours le même sentiment d'inquiétude pour elles et de haine à cause de cette inquiétude. Vers 11 heures du matin arrive sa sœur, son ambassadrice. Alors commencent les phrases habituelles. « Elle est dans un état terrible. Qu'est-ce donc ? Mais rien n'est arrivé. » Je parle de son caractère impossible et j'ajoute que je n'ai rien fait. « Mais cela ne peut pas durer ainsi, » dit la sœur. Je réponds « C'est son affaire et non la mienne. Je ne ferai pas le premier pas. Si elle veut divorcer, tant mieux. » La belle-sœur s'en va sans avoir rien obtenu. Je dis bravement, résolument, que je ne ferai pas le premier pas, mais à peine est-elle partie que je vais dans l'autre pièce. Là, je vois les enfants épouvantés, pitoyables, et déjà je suis prêt à faire le premier pas. Je le ferai volontiers, mais je ne sais comment m'y prendre. De nouveau, je me promène de long en large, je fume. Au déjeuner, je bois de l'eau-de-vie et du vin, et j'arrive à ce que je désire inconsciemment, ne plus voir la sottise, l'ignominie de ma situation. Vers 3 heures, elle arrive. Elle me voit et ne dit rien. Je crois qu'elle vient apaiser. Je commence à lui dire que j'ai été provoqué par ses reproches. Elle me répond avec la même figure sévère et terriblement abattue qu'elle n'est pas venue pour des explications, mais pour prendre les enfants, que nous ne pouvons plus vivre ensemble. Je lui réponds que ce n'est pas ma faute, qu'elle m'a mis hors de moi. Elle me regarde d'un air sévère et solennel et dit « N'ajoute plus rien, tu t'en repentirais. » Je riposte que je ne puis tolérer les comédies. Alors elle crie quelque chose que je ne comprends pas et s'élance vers sa chambre. La clé grince, elle s'enferme. Je pousse la porte, pas de réponse. Furieux, je m'en vais. Une demi-heure après, Lise arrive en courant tout en larmes. « Quoi ? Est-il arrivé quelque chose ? » ?»« On n'entend pas maman. » Nous allons vers la chambre de ma femme. Je pousse la porte de toutes mes forces. Le verrou est mal tiré, les battants s'ouvrent, je m'approche du lit. En jupon, chaussé de hautes bottines, ma femme est couchée de travers sur le lit. Sur la table, une fiole d'opium vide. Nous la rappelons à la vie. Des larmes, enfin la réconciliation. Pas de réconciliation sincère, dans le fond de son âme, chacun garde sa haine contre l'autre, mais il faut bien, momentanément, finir la scène d'une façon quelconque, et la vie recommence comme auparavant. Ces scènes-là, et même de pire, arrivaient tantôt une fois par semaine, tantôt chaque mois, tantôt chaque jour, et toujours la même chose. Une fois, j'avais déjà pris mon passeport pour l'étranger. La querelle avait duré 2 jours. Après une mi-explication, mi-réconciliation, je restais.